Bonjour à tous, ou bonjour Sonra, on dit, c'est ça? Voilà, donc je m'appelle Raphaël et je fais partie des anciens de l'église de l'Oasis à Vénissieux, Oasis que vous connaissez bien, vous connaissez aussi le pasteur Nicolas, donc le grand bonjour de l'Oasis. Je suis venu avec ma femme aujourd'hui, donc Aline qui est là, et mes deux filles, Ophélie et Célia, et si j'ai bien compris, il ne faut pas que je prêche trop longtemps, sinon elle risque de se transformer en glaçon. Donc, à l'Oasis, on a eu il y a 2-3 ans une série de prédications sur 1 Corinthiens, et le planning a fait que j'étais tombé sur le chapitre 8, qui parle des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, si j'avais choisi le découpage, je ne serais pas forcément tombé sur ce texte-là, et pourtant, je me suis retrouvé à prêcher en chair, pas forcément dans ma zone de confort. Et en discutant dimanche dernier avec Nicolas, justement, il m'a dit « Tu sais, ce message que tu as fait là, il y a 2-3 ans, il m'a vraiment touché. » Ok. Et du coup, comme j'étais en train de prier sur qu'est-ce que j'allais amener aujourd'hui, j'ai pris ça comme une réponse. Donc, une fois de plus, pas dans ma zone de confort, je vais prêcher sur 1 Corinthiens 8. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte sur ce livre. Donc, ça fait quelques temps que Paul a quitté Corinthe, cette ville cosmopolite qui brasse autant de gens que de marchandises entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et Paul a passé là-bas un an et demi à parler de Jésus. Et c'est un endroit de choix pour un missionnaire comme lui, puisque c'est un endroit pas évident, avec beaucoup d'influences païennes. Et pourtant, il y a une belle communauté qui s'est faite au contact de Paul. Et depuis que Paul est parti, il n'entend pas des très bonnes nouvelles. Et vas-y que ça se dispute. C'est le bazar pendant les cultes. Il y a certaines mœurs qui n'ont rien à faire dans l'église et qui pourtant s'y installent. Et en fait, l'église de Corinthe, ça pourrait être nos églises en Europe en 2023, avec toute cette influence païenne issue de la mondialisation. Et Paul n'y va pas de main morte pour redresser ce qui ne va pas. Plusieurs sujets vont être abordés, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, donc ça va être la section qui parle de la liberté chrétienne et d'idolâtrie. Donc, c'est les passages qui vont de 1 Corinthiens 8 à 1 Corinthiens 10. Et plus précisément, on se limitera donc à 1 Corinthiens 8, qui parle certes des viandes sacrifiées aux idoles, mais la proposition centrale qu'on va voir aujourd'hui est la suivante. Nos actions édifient lorsque notre connaissance et notre liberté cèdent la place à l'amour. Nos actions édifient lorsque notre connaissance et notre liberté cèdent la place à l'amour. Alors rien de tel qu'un petit exemple de la vie courante pour commencer à illustrer ça. Donc vous avez beaucoup d'enfants ici, j'en ai aussi. Et avant de les avoir, je mettais régulièrement mon couteau en bouche quand je mangeais. Et vous le savez, les enfants, ils épient et copient tout ce qu'on peut bien faire. Et s'ils me voient mettre mon couteau en bouche, ils vont le faire aussi et ils vont se blesser. Alors même si j'ai la connaissance de savoir comment je mets mon couteau en bouche sans me blesser, je vais éviter de le faire pour pas que mes enfants se blessent. Et puis le moment venu, ils seront en capacité de faire la différence entre un couteau rond, un couteau pointu, un couteau tranchant, un couteau émoussé, et ils apprendront à s'en servir de mieux en mieux. Et peut-être même comme moi, mais c'est pas bien. Et tout ça sans se blesser. Alors, je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 8. Et nous allons lire ensemble les écrits de Paul qui abordent ce sujet à cause des occasions de chute apportées par certains, de par leur connaissance et d'un manque d'attention fraternelle, non pas au sujet des couteaux, mais au sujet des viandes sacrifiées aux idoles. 1 Corinthiens, chapitre 8. Et je vais lire dans la version second 21. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Donc, à la suite de cette lecture, on verra trois choses. On verra que notre connaissance seule n'édifie pas, mais l'amour, si. On verra le cas des viandes sacrifiées aux idoles et on aura un certain nombre d'applications un petit peu plus contemporaines pour nous aujourd'hui. Alors, on commence par le premier point, et sur ce point, j'ai une confidence à vous faire, j'ai un gros défaut. Et j'ai beaucoup progressé depuis la dernière prédication sur ce passage, mais si Dieu me fait reprêcher dessus, c'est peut-être qu'il y a encore du travail à faire. Et ce petit défaut, vous le voyez peut-être si vous avez des enfants, en tout cas moi je le vois avec les miens, surtout avec la petite. À chaque injonction, elle dit « Mais je sais !» Et de même, lorsque quelqu'un me dit quelque chose, il pense que je ne le sais pas, et moi, il y a mon orgueil qui veut absolument dire « Mais si, je sais, et je le savais même avant, et je sais même encore plus !» Tout ça pour pallier à une grave injustice, qui pourtant n'est qu'une innocente chatouille à mon ego. Et c'est par cette interprétation très personnelle que je commence à prêcher à partir du verset 1, où Dieu m'a dit « Tu sais, c'est bien. Eh bien, d'abord aime, c'est mieux. Tu sais, c'est bien, mais d'abord aime, c'est mieux. » Ah, cet orgueil. Parfois, je me rends compte, avec un décalage de 2 secondes, que c'est lui qui a démarré ma phrase. Et là, il ne me reste plus que quelques mots pour corriger le tir. Vous avez déjà commencé une phrase, vous corrigez le tir pour rattraper le coup. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Alors si ça ne vous arrive pas, c'est peut-être que vous êtes trop orgueilleux pour vous rendre compte que vous êtes orgueilleux. Et je pense que Paul sait de quoi il parle. Et ça doit être amer pour lui. Ça doit lui sortir par les tripes. Parce qu'au nom de sa connaissance dans la loi de Dieu, il a mis des chrétiens en prison. Puis, saisi par l'amour de Dieu, il a enfin pu voir les chrétiens et la parole de Dieu au travers de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Puis, au verset 2, Paul nous fait réaliser que même si on sait des choses, ok, c'est bien, mais on n'en sait pas tant que ça. Et ça, j'ai de nombreuses occasions de le constater dans ma vie, surtout en tant que scientifique, et j'aimerais vous partager une petite citation en lien avec ce verset 2, Un peu de science rend présomptueux, beaucoup de science rend humble. L'homme voit d'autant mieux son néant qu'il s'approche plus près de l'être. Et on arrive au verset 3. La connaissance, c'est bien, mais tu veux savoir la meilleure ? Le mieux, c'est d'être connu de Dieu. Être connu de Dieu, être reconnu par lui comme sien. Et Dieu sait toutes choses, et il est amour. Dieu sait toutes choses, et il est amour. Alors moi aussi, peu importe ma connaissance, si elle n'est pas exploitée dans l'amour. Dans 1 Jean 4, verset 7, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Connaître Dieu implique que nous soyons remplis de son amour. Et on en arrive au deuxième point, le cas des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui était une situation délicate à l'époque, au temps de Paul, chez les Corinthiens, mais aussi parmi d'autres peuples païens, et même si ce cas précis aujourd'hui ne nous parle pas beaucoup. La vie sociale à l'époque, comme les fêtes familiales, se faisait communément dans des temples d'idoles avec des viandes qui leur étaient sacrifiées. Difficile d'y échapper si on a une vie sociale. Et tout cela ramenait les Corinthiens à leurs anciennes pratiques liées à l'idolâtrie. L'homme tend naturellement à s'adapter et à se conformer à un milieu social. Dans un milieu plein de débauches, il est difficile pour les croyants les plus faibles de ne pas se conformer aux pratiques qui les entourent. Et dans le cas des viandes sacrifiées aux idoles, Paul développe son argument tel qu'on a pu le lire avant dans le texte, et je ne vais pas le paraphraser, mais je vais vous proposer d'élargir un petit peu le sujet en regardant ce que disent d'autres passages de la Bible, et notamment le livre des Actes au chapitre 15, dont Paul est partie prenante. En fait, dans ce passage, les chrétiens d'origine païenne vont devenir bientôt plus nombreux que les chrétiens d'origine juive, et les juifs ont la loi de Moïse. Les païens ne l'ont pas. Les uns baignent dans une culture aux valeurs mosaïques et les autres vivent dans une culture en opposition avec les valeurs de l'Évangile. Et il y a au sujet des viandes sacrifiées deux principaux problèmes. Le premier, c'est le risque pour les croyants les plus faibles de mélanger l'Évangile aux pratiques idolâtres comme cela peut être le cas pour nous aujourd'hui avec le matérialisme, l'hédonisme ou d'autres choses. Et le deuxième problème, c'est le clash dans la communion fraternelle entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Et au chapitre 15 du livre des Actes, le concile de Jérusalem tranche la question des viandes sacrifiées aux idoles, ainsi que le sujet, d'autres sujets sur la même ligne de tension, comme par exemple la consommation du sang des animaux. Et bien que Christ nous a affranchis pour la liberté, Galates 5.1, il s'agit ici de sujets qui font chuter les uns, qui sont les plus faibles, et les autres, qui sont les juifs avec qui ça crée des divisions. Et c'est donc pour favoriser l'unité et l'édification de tous que les restrictions sur les viandes sacrifiées aux idoles ont été posées. Ces questions tranchées au chapitre 15 des Actes sont à la base soulevées par l'église d'Antioche, mais il se trouve que dans les voyages de Paul, la visite aux Corinthiens est postérieure à Acte 15, qui tranche ce débat. Donc Paul n'est pas en train, dans ce passage, de contredire ce qu'il disait dans Acte 15, puisqu'en plus il a lui-même pris part à cette décision. Par contre, il en explique les principes sous-jacents de volontairement réduire certaines de nos libertés par amour pour l'édification du plus grand nombre. Et pour ceux qui se demandent s'ils peuvent manger de la viande halal, du boudin, de la viande saignante, je vous inviterai à vous positionner vous-même sur la base de lectures complémentaires données à la fin du message, notamment Romains 14, 15, qui nous invite à nous forger une conviction sur ce sujet, sur la base de notre liberté en Christ en ce qui nous concerne, et sur l'amour de Christ en ce qui concerne nos interactions avec les autres. Hop. Est-ce que cet aliment, ce film, ce loisir, ce choix de vie est une occasion de chute pour moi? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Et la deuxième question, c'est est-ce une occasion de chute pour mon frère ou ma sœur? Voilà deux questions qui nous permettent de vivre notre liberté en Christ avec sagesse. Et j'ajouterai à cela que dans notre liberté face à plusieurs produits, on peut choisir celui qui correspond le plus à nos valeurs, sans non plus nous formaliser sur les exceptions. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans Corinthiens 10 et aussi dans Romains. Romains qui parle plutôt des aliments impurs pour les Juifs, et puis Corinthiens qui parle plus des viandes sacrifiées aux idoles. On en arrive au troisième et dernier point. Et on va parler d'applications un petit peu plus contemporaines. Et j'aimerais commencer en lisant 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 23 à 24. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. » Et cette pensée de Paul est fondamentale dans notre réflexion. Bien que nous ayons la liberté d'agir, Paul nous encourage à exercer cette liberté avec discernement, en cherchant non pas notre propre bénéfice, mais bien celui de l'autre. Paul évoque la notion d'amour et d'édification mutuelle, et dans notre liberté, nous sommes appelés à nous demander « Cet acte édifie-t-il mon prochain ?» et pas seulement « Suis-je libre de le faire ?» Je vais donner maintenant quelques exemples, certains plus séculiers, d'autres plus spirituels. Et on va voir ensemble différents points. La Bible nous invite à la pudeur. Et moi, pourtant, quand je suis chez moi l'été, je suis plutôt en caleçon. C'est plus confortable. C'est mon droit, c'est ma liberté. Et je pourrais assumer en moi-même d'ouvrir la porte en caleçon. Mais par respect pour la personne à qui je vais ouvrir, je mets au moins un short, si je le connais bien, alors très bien, mais dans le doute, je vais quand même mettre un t-shirt. Les uns sont en faveur d'une tenue républicaine, d'autres veulent la liberté pour tenue. En tant que chrétiens, nous avons la liberté de nos vêtements, mais aussi l'amour pour volontairement nous restreindre dans cette liberté avec certaines personnes pour ne pas être une occasion de chute pour eux. Il ne s'agit pas, attention, d'être esclave du regard de l'autre, il ne s'agit pas d'agir vraiment avec le regard de l'autre, il s'agit de ne pas seulement faire en fonction de notre liberté et de notre connaissance, mais aussi en favorisant la marche chrétienne de nos frères et sœurs, en étant une source d'édification pour eux et non une occasion de chute. Il ne s'agit pas non plus de renier notre personnalité ou nos valeurs avec mollesse, mais il s'agit de ne pas perdre un frère ou une sœur par des provocations inutiles. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans le travers de notre époque, de ne plus pouvoir rien dire au risque d'éveiller la susceptibilité de l'un ou de l'autre, mais il s'agit de vivre avec amour les convictions donné par Dieu. Et je me souviens qu'en tant que jeune chrétien, quand je voyais quelque chose d'un petit peu limite, j'avais tendance à avoir l'une ou l'autre de ces deux réactions. Soit je me disais « on peut faire ça, ok », et en fait non. Soit je me disais « waouh, je suis quand même ébranlé dans ma foi chrétienne qu'il y ait des gens qui fassent ça, des chrétiens qui fassent ça ». Et dans les deux cas, on est d'accord que ça pose un problème. Et aujourd'hui, même si je ne réagis plus comme ça, je suis encouragé par les versets 9 à 13 de ce passage qui me montre ma responsabilité en tant que chrétien, en tant qu'aîné, dans le cheminement des autres et notamment des plus jeunes. Un autre exemple, l'alcool. Alors, je peux prendre cet exemple sans trop risquer de choquer, parce qu'on est en France. Si j'avais été aux US, j'aurais peut-être pas pris cette image-là. Sinon, ça aurait été une occasion de chute, ça aurait été le comble, c'est-à-dire le contraire de mon message. Euh, Avec mon groupe de jeunes, à l'époque, on était à un voyage missionnaire en Ukraine. Et dans ce pays, consommer de l'alcool égale excès d'alcool, donc chrétien égale pas d'alcool. Voilà, comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis notamment, enfin ça dépend des endroits. Mais... Et pourtant, ben, je sais, j'ai la connaissance que si je bois juste une bière et je sais le maîtriser, je ne vais pas être saoul à la fin du repas. Mais je m'en abstiens volontiers pour édifier quelqu'un. Et pas besoin de quitter cette salle pour que le sujet de l'alcool soit délicat. Dans toutes les églises où j'ai été, il y a toujours au moins une personne qui a dû se battre face à un passé d'alcoolisme. Et s'abstenir de vin à table avec cette personne, c'est une bonne idée. Si on ne sait pas, ne pas être insistant pour servir de l'alcool, c'est une bonne idée aussi. Ce n'est pas un manque de politesse. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines églises, et visiblement la vôtre, parce que je n'ai pas senti le goût de l'alcool ce matin, proposent du jus de raisin plutôt que du vin pour la scène, pour éviter d'être une occasion de chute pour un frère ou une sœur. Et je pense que même aujourd'hui, sur des choses où des personnes nous demandent quelque chose, par exemple, mais qui peuvent être pour elles une occasion de chute, eh ben, il faut avoir la sagesse de s'abstenir de répondre à cette demande. Ça peut être délicat, mais je vais vous partager un exemple que j'ai vécu. Ça pourrait être pour le vin, mais voilà, mon exemple est tout autre. Quand j'étais étudiant en Corée du Sud, j'ai fait pendant un temps partie de l'équipe de louanges. Et avec l'équipe de louange, on discutait, etc. Et il y a une fille, elle n'arrêtait pas de dire « Oh, mais oh, j'aime trop dans les films la bise française, est-ce que tu peux me faire la bise ?» Je dis « Bah ouais, je n'avais pas été le problème. » Ben, je lui ai fait la bise, et en fait, elle est restée de marbre. Pendant une heure, elle n'a pas chanté à la louange. En fait, je ne m'en rendais pas compte à cause du fossé culturel, puis un petit côté provoque aussi à la française, hein, peut-être. Mais en fait, j'ai été une occasion de chute pour elle. Et pourtant, j'ai juste fait ce qu'elle m'a demandé, et pour moi, c'était neutre. Entre-temps, avec Aline, mon épouse, on a fait une école biblique, qui est une école missionnaire en milieu interculturel. Et ça m'a aidé à prendre en compte ce genre de choses. Et je dois avouer que j'ai toujours mon petit esprit, parfois un petit peu taquin, un petit peu provocateur, qui voudrait quand même taquiner un petit peu. Mais voilà, ça me pousse aussi à avoir plus de sagesse et à veiller à ce genre de situation. Et d'ailleurs, je dois faire attention aussi au second degré. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je parle beaucoup en second degré. Et mes amis, mes proches savent que quelle que soit l'énormité que je peux sortir, soit c'est tout le contraire, soit c'est en lien avec quelque chose de fictif. Et si maintenant je fais ces mêmes blagues avec des personnes qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas forcément cette sensibilité, je peux vraiment les heurter, les choquer, les faire chuter, les décevoir, parce que mon intention n'a pas été comprise. Et dans la communication, on doit vraiment faire attention à notre emploi de l'humour, même si l'humour, ça permet aussi de déverrouiller hein, la communication, mais ça peut aussi la crisper. Un dernier exemple, hein, en lien aussi avec la communication, c'est le fait de s'abstenir sur des sujets qui sont pas importants, mais qui sont clivants. J'ai beaucoup progressé là-dessus pendant le Covid. Et si vous lisez le livre des Proverbes là, que je lis en ce moment, en fait, à plusieurs occasions, on a ce genre de conseil qui est donné dans le livre des Proverbes, que je vous encourage à relire. J'aimerais terminer par un exemple plus intimement lié à notre mission de disciple, qui est de faire des disciples, toujours dans cette idée que notre connaissance cède la place à l'amour. Oh là, il est fort le frère, parce que moi j'oublie la télécommande à chaque fois. Imaginez qu'une personne s'approche de Dieu et vous exprime sa détresse. En fumant, elle vous explique qu'elle remercie Dieu de ce que son horoscope l'a conduit à aller chez un magnétiseur pour mettre fin à ses douleurs. Alors vous allez dire, sirène d'alarme, il y a du warning rouge de partout. Et vous allez vous dire que j'exagère un petit peu aussi, Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, on a eu quasiment cette situation-là à l'Oasis. Donc, avec une sœur qui débarque, mais qui ne connaît pas encore grand-chose, mais qui est attirée par Dieu. Et là, on a deux possibilités pour réagir. Couper court à la discussion et débiter avec jugement toute sa connaissance biblique, point par point, pour tout démonter. Ou alors, écouter avec amour la situation difficile de l'autre et l'accompagner dans un processus de restauration avec une nourriture biblique régulière pour qu'elle découvre les vérités de la parole. Et dans les deux cas, on ne va pas déroger au cadre biblique, mais dans le premier cas, on va assommer l'autre avec un gros coup de Bible, et dans l'autre cas, on l'aime et on le nourrit de la parole d'abord au biberon, puis on va passer à de la nourriture plus solide. Alors, pour conclure, je sais plus si c'est une slide, non. Pour conclure, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et Dieu nous nourrit de connaissance par sa parole. Cependant, que notre liberté et notre connaissance ne soient pas une occasion de chute pour les autres. Comme Jésus qui savait tout et qui pourtant s'est abaissé jusqu'à nous, soyons humbles et agissons avec amour. Par amour, brisons notre orgueil qui pollue nos relations. Par amour, sacrifions certaines de nos libertés s'il le faut. Par amour, acceptons la liberté de conscience de l'autre. Par amour, adaptons nos paroles s'il le faut. Par amour, gardons une parole pour la prochaine fois. Par amour, acceptons de ne pas avoir le dernier mot. Par amour, faisons ce qu'il faut pour édifier l'Église telle qu'elle est, là où nous sommes. Nos actions édifient lorsque notre connaissance et notre liberté cèdent la place à l'amour. Merci Seigneur pour cette grâce d'être venu jusqu'à nous, nous qui étions pécheurs. Tu es venu, tu as manifesté ton amour en Jésus-Christ. Pardon Seigneur pour nos péchés, pardon Seigneur pour notre orgueil. Pardon Seigneur pour l'orgueil de connaissance. Pardon Seigneur pour l'orgueil d'utiliser la liberté que tu nous offres pour satisfaire notre ego. Seigneur, on veut se repentir de cela et on veut te prier que tu nous remplisses de ton amour pour utiliser la connaissance de ta parole avec sagesse, pour utiliser notre liberté pour servir notre prochain, pour faire avancer le royaume de Dieu et non pas pour satisfaire notre ego. Seigneur, on te prie que tu viennes à notre secours. Et tu vois que c'est parfois difficile, que ça demande du discernement. On te prie, Seigneur, que tu nous donnes ce discernement, cette sagesse. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci. Quelques ressources. Ah, je vous laisse quelques sur la dernière slide. Voilà, quelques ressources à lire encore, si vous le souhaitez. Donc, 1 Corinthiens 8 à 10, Romains 14 et 15, et une petite vidéo de Florent Varac pour ceux qui se posent la question de la viande halal. Voilà.
Merci Raphaël pour ce message de liberté.